We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
L'exposition Pink Floyd fait halte à Montréal après une tournée européenne. Le groupe mythique est passé à l'histoire, tant pour leur contribution à définir le psychédélisme et le rock progressif, que pour avoir aussi amené des albums et des spectacles au statut de forme d'art. Alors, je suis absolument ravie de pouvoir poser quelques questions à Guy Laforce, directeur général de l'Arsenal, qui est ici présent à cette visite intense jeudi matin 4 novembre au sujet de cette toute nouvelle exposition. Alors, il y a quelque chose d'important dont il y a des questions beaucoup, beaucoup pendant la visite de presse, c'est que le groupe tenait vraiment à passer par Montréal. Commencer ici la tournée nord-américaine à Montréal, hein? Pour quelle raison?
Bonjour.
Bienvenue. Hein?
Ben oui, merci. Ben, on le sait tous, la musique progressive en général,
oui.
La musique de Pink Floyd en particulier, a plu en premier dans la province de Québec. Vraiment. Et puis, on me dit même qu'à Paris, en France, c'était la même chose aussi. On dirait que les gens, les francophones,
oui,
ont allumé encore plus vite que les anglophones sur ce que Pink Floyd avait à proposer. Et puis, au fil de leurs 50 ans de carrière, ils ont toujours eu des bonnes et même une mauvaise expérience à Montréal. Mais ça a toujours été une ville spéciale pour eux. Encore là, Nick Mason, tout à l'heure à la conférence de presse, j'ai eu le bonheur d'être à son spectacle de son projet solo il y a 3 semaines au Théâtre Saint-Denis. Et puis, il dit que c'est la meilleure ville qu'ils ont fait depuis le début de la tournée. Il y a quelque chose de spécial avec Pink Floyd à Montréal. Donc, nous, moi ici, en tant que directeur...
Une relation très particulière qui est honorée, en fait, dans le cadre de cette exposition qui est présentée ici.
Oui, vraiment. Puis, moi, je suis directeur d'un musée, d'un centre d'art, mais je viens du show business aussi. Donc, j'ai travaillé avec Donald K. Donald. J'ai travaillé personnellement sur les spectacles de Pink Floyd au Stade olympique. Et puis, de voir... de tous retrouver ces gens-là, Michael Cole, Nick Mason, les gens de Pink Floyd, de les retrouver X années plus tard dans un monde muséal, j'en reviens pas, c'est comme j'aurais jamais pu parier que cela allait arriver.
Alors, vous êtes très ému aujourd'hui.
Oui, c'est une journée très émouvante, oui, très excitante. Oui. Et c'est comme si tout ce que j'avais fait dans ma carrière jusqu'à maintenant se concrétisait aujourd'hui. Avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Et ce groupe-là existe depuis... Ils ont commencé, j'étais pas né.
Mais écoutez, ils étaient...
ça a accompagné toute notre vie. Et puis, effectivement, comme vous le disiez en ouverture, c'est que, contrairement à certains autres groupes, Pink Floyd, eux, ils faisaient de la musique plus comme des artistes que comme des musiciens.
Écoutez, j'ai lu qu'ils étaient étudiants en art et en architecture.
Complètement.
Tout s'explique.
Puis quand on écoute, oui, les preuves... Moi, oui, j'ai revisité là, la dernière année, parce qu'on parle de ça depuis longtemps déjà, j'ai revisité tout le répertoire de Pink Floyd, les premiers albums plus obscurs, et on voit à quel point c'était plus des artistes que des musiciens. Et eux, ils comprenaient que le vidéo, les illustrations et tout l'univers autour du groupe était important, et ils ont travaillé sur toutes les facettes, d'où la présence de Aubrey Powell aujourd'hui, qui a été le directeur...
Commissaire, hein, c'est ça?
Commissaire de l'exposition. Oui. C'est lui qui a désigné la pochette de Dark Side of the Moon, entre autres, et il a suivi le groupe depuis 1967. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de graphique à sortir, il faisait appel au service d'Aubrey Powell. Donc, ce n'est pas juste un groupe de musiciens Pink Floyd, c'est un collectif d'artistes.
Et qui était soucieux de faire de la recherche et faire en sorte que tous les aspects que vous avez nommés puissent concourir pour créer l'impact tant souhaité.
Vraiment.
C'est-à-dire une prise de conscience, parce que c'était aussi des artistes très engagés.
Oui, et ce qui est drôle, c'est que les membres du groupe disent en entrevue qu'ils sont engagés, mais ils ont pas chacun des membres du groupe a une vision de la vie très, très, très différente les unes des autres. C'est peut-être un peu ceci qui a expliqué cela. C'est peut-être pour ça que le groupe s'est séparé, parce qu'ils sont...
Parce qu'ici, on peut apprécier toute la convergence qu'a pu se créer avec ces musiciens réunis. On peut l'apprécier, mais effectivement, comme vous dites, quand ils se sont séparés, ça a été autre chose.
Oui, puis il y a eu plusieurs époques, plusieurs itérations à ce groupe-là. Et c'est ce qui est intéressant dans l'exposition, de voir toutes les périodes que ce groupe-là a connues. Parce que être dans un groupe de rock, puis commencer dans les années 60 et se rendre jusqu'en 2022, c'est pas un fleuve tranquille, là. C'est parsemé de succès, mais c'est parsemé d'échecs, c'est parsemé aussi de conflits. Et on sent tout ça à travers l'exposition. Mais ce qui sort le plus, c'est la force créative de ces membres-là, tout le monde ensemble.
Alors, on voit que vous êtes réellement quelqu'un, au départ, qui est un passionné du groupe Pink Floyd. Vous avez travaillé à leur spectacle. Et si vous parliez un petit peu plus davantage que je ne l'ai fait, de la genèse, vous avez travaillé fort à ce que cette exposition puisse être présentée ici.
Oui, vraiment. Comme je vous le disais précédemment, nos coproducteurs, S2BN, Michael Cole et son fils Jacob, c'est des gens avec qui on traitait déjà dans le temps de quand je travaillais dans le show business. Et puis, tout de suite, quand je suis arrivé à la barre de Arsenal, j'ai tout de suite fait comme, OK, il faut faire l'exposition de Pink Floyd. Et on a commencé à discuter, mais c'était très, 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 très difficile financièrement que tout ça se tienne. Et à un moment donné, on était rendu...
Vous avez découvert l'exposition à Londres, j'imagine, ou à Europe?
Je ne l'ai pas vue, mais on m'a envoyé des vidéos et j'ai fait le tour virtuellement de l'exposition. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu que ça coûtait trop cher à faire venir. Et là, pendant un an, on a joué un petit peu au ping-pong. Et là, j'ai fait comme, OK, Arsenal va être coproducteur de l'exposition. Et puis, on va convaincre les Britanniques de dire, ici, à Montréal, particulièrement Arsenal, il y a une expertise muséale. Parce que c'est vraiment une exposition, c'est très, très fragile, ça prend beaucoup de minutie. C'est pas comme un show rock, là, où
Cette expertise est particulièrement appréciée par Nick Mason, qui l'a mentionné en visite de presse.
Exactement. Oui. Puis là, j'ai convaincu Pink Floyd, au lieu de venir à une vingtaine de Britanniques, qui coûtent très cher à déplacer, à loger, à nourrir, à payer et tout ça, j'irai convaincu de dire, amenez-nous vos personnes clés et tout le reste, on va le faire avec du personnel muséal de Arsenal et de Montréal et du Québec.
Quelle bonne idée et quelle bonne promotion de l'Arsenal, aussi tant ici qu'à l'international.
Oui, vraiment. Et puis, ils ont accepté. Et on a fait donc un travail d'équipe incroyable avec les Britanniques, avec les Québécois. Et puis, on arrive à ça aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est que tout le monde a mis de l'eau dans son vin, tout le monde a travaillé plus fort que d'habitude, parce que c'est un genre de projet de cœur, ça.
Ouais. Oui, c'est ce que j'ai pu... vous parliez de très bonnes relations entre Pink Floyd et Montréal, mais je pense qu'il y a eu une très bonne relation entre l'Arsenal et les représentants de Pink Floyd ici aujourd'hui réunis.
Oui, vraiment. C'est un projet qui est très, très agréable à mener. Oui.
Juste avant qu'on parle de l'exposition même, ça semble s'être très bien déroulé, tous ces préparatifs pour faire venir l'exposition ici. Il n'y a pas eu d'embûches.
Il y a eu des embûches logistiques, mais il n'y a pas eu d'embûches d'affaires ou personnelles ou tout ça. C'est une collaboration totale, vraiment. Là. Et c'est impressionnant de voir... même le groupe nous ont donné accès à leurs médias sociaux. Ils nous ont donné les codes pour qu'on puisse faire de la publicité sur le... C'est incroyable, la collaboration. Vraiment, tout le monde est bien intentionné. Tout le monde y va avec son cœur. C'est drôle à dire à l'époque où on parle beaucoup d'argent puis d'économie puis tout ça. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, tout le monde est avec son cœur.
Oui. Alors, je pense qu'il y a un souhait. Il y a un souhait parce que, écoutez, ça a été présenté, cette exposition-là, dans un musée. Mais ici, on n'a que des éloges sur l'espace ici, l'expertise. Mais effectivement, je pense que c'est une étape qu'ils souhaitaient vivre, le Pink Floyd, qui est quelque chose de plus après leur carrière, qui est quelque chose qui puisse permettre au public d'apprécier toute leur carrière dans son ensemble.
Mais en fait, cette idée-là vient de Aubrey Powell, le directeur artistique, celui entre autres qui a fait la pochette de The Dark Side of the Moon et qui travaille avec le groupe depuis 1977.
Avec une vision artistique.
Il y a une vision artistique, oui. Puis il y a une vision globale du groupe. Mm-hmm. Donc, lui, il a une vision vraiment globale parce qu'il n'est pas dans le groupe. Il est proche, mais il n'est pas dans le groupe. Et lui, à un moment donné, il a eu cette idée-là de dire, on devrait faire une exposition sur votre legacy, comme on dit, sur votre leg.
Oui.
Et puis, les membres du groupe disaient, ah, OK, c'est une bonne idée. Et là, quand son surnom au directeur artistique, c'est Poe. Tout le monde le connaît sous le nom de Poe, Aubrey Powell. Et quand Poe est arrivé avec le projet sur papier, il est allé voir chacun des musiciens et on te dit, ah, ben oui, ça serait magnifique. OK, bye, on te laisse aller. Et là, Poe s'est ramassé.
On pouvait s'y attendre, mais avoir autant d'ouverture, une nouvelle étape, c'est incroyable.
Oui, et là, tout le monde était d'accord avec ça, mais là, c'est Poe qui s'est débrouillé avec tout ça. Et heureusement, Nick Mason, le batteur du groupe fondateur qui est ici présent aujourd'hui, avait quand même ramassé beaucoup de matériel.
Ça m'amène justement à vous parler de l'exposition. Je pense que qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut apprécier ici? Il y a beaucoup d'artefacts. Hein?
Oui, bien entendu,
il y a des d'artefacts.
Bien entendu, il y a des instruments marquants.
Oui.
Il y a des séquences vidéo marquantes. Il y a des illustrations marquantes. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments de scène. Tout ce que vous voyez, on sait que Pink Floyd avait l'habitude de travailler avec des décors gonflables.
Et de grands formats.
De grands formats.
Oui.
Parce qu'ils ont toujours fait... C'est toujours plus gros que les autres, Pink Floyd.
Oui.
Et puis, tout ce qu'on voit accroché au plafond vient de la scène de Pink Floyd. C'est le matériel de scène qu'ils utilisaient. Ce n'est pas des reproductions, c'est des éléments.
Toute l'oppression
oui. On a même la canne du professeur de Roger Waters lorsqu'il était jeune et le professeur le frappait avec cette canne-là. On a la canne originale. Ça va vraiment, vraiment loin.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. C'est pas une blague.
Bon.
On sait que la carrière de Roger Waters a été beaucoup, beaucoup basée sur sa relation avec l'autorité et avec les
oppressantes.
Oui, exactement.
Oui.
Et puis, il a composé plusieurs titres et albums autour de ce concept-là. Et puis, il y a des objets comme ça. On parle aussi...
Il y a beaucoup de photographies, hein?
Oui.
Le volet visuel est très important.
Oui, mais tout ce qui s'appelle graphique, là, c'est pour ça qu'Aubrey Powell, c'est comme un peu le cinquième Beatle, dans le sens que c'est lui qui a vraiment façonné l'image de ce groupe-là.
Les
images fortes, là, de Wall, Animals, le cochon volant, tout ça, là, ça vient... Bien entendu, il l'a fait accepter par le groupe, mais ça vient tout de l'imaginaire de Poe. C'est
l'artiste. Qui a su capter cette convergence-là qui était si créative chez Pink Floyd.
Oui. Puis je crois que rendu là...
Le transformer en élément visuel.
Puis rendu là, je crois que la musique influençait Aubrey Powell pour faire le graphisme.
Oui.
Mais je crois aussi que le graphisme influençait les musiciens pour faire la musique.
C'est intéressant, cette interaction-là entre l'art et la musique, tout à fait. Et parlez-nous du concept de l'exposition. C'est une exposition assez immersive. Hein? Il faut faire le tour avec des balados. Hein?
C'est une exposition. Oui. Il y a un système d'audio-guide. Qui n'est pas comme les audio-guides à l'époque.
Oui.
C'est un audio-guide qui est géolocalisé. Donc, peu importe où on se promène dans l'exposition, la trame change à mesure de notre déplacement. Et puis, il y a de l'anglais, il y a du français.
OK.
Et puis, oui, il y a des artefacts. Oui, il y a des documents vidéo.
Mais il y a différentes sections.
Il y a différentes sections.
Chronologique, je crois.
C'est chronologique. Oui, c'est vraiment chronologique.
Disques?
On y va album par album. Et puis, on peut voir justement les époques du groupe. Parce que dans les années 60, c'était un band de yéyé psychédélique.
Oui.
Et puis, très, très, très low-fi, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est devenu un groupe...
Rock,
mais...
Progressif.
Hi-fi, haute fidélité, tout était recherché.
Techno, à la fine pointe de la technologie à l'époque.
Donc, c'est le fun de voir cette évolution-là sur une cinquantaine d'années.
Ah, écoutez,
c'est très émouvant de voir.
Je perçois l'émotion chez vous. Et bravo, c'est une exposition vraiment qui permet de rendre hommage à ce groupe si apprécié, si marquant, non seulement pour les Québécois, de par le monde.
Peut-être
en terminant, nous parler un petit peu de quelques données factuelles. Bon, l'exposition ne dure que 2 mois. Ça sera difficile peut-être. Est-ce qu'il y aura une plage horaire très remplie?
Oui. L'exposition est présentée à partir du 4 novembre jusqu'au 31 décembre, 6 jours par semaine. On est ouvert du matin jusqu'au soir. On a décidé de travailler sur des politiques de prix aussi le plus abordable possible. Donc, les prix commencent à 25 $ pour les jeunes, 35, 45, 55, tout dépendant de la journée où on vient. Et puis, on a voulu garder ça très, très... C'est comme un peu si nos fins de semaine, c'était le devant du parterre. Le jeudi, vendredi, c'est comme le milieu du parterre. Puis, le début de semaine, bien, c'est les prix les moins chers, comme un peu si on va voir un spectacle au balcon. Mais on voulait que ça soit abordable pour tout le monde. Et le prix de billet de 25 $ pour les jeunes, c'est tout au long de la semaine. Donc, l'idée, c'est que ce serait que les parents ou les grands-parents qui ont aimé Pink Floyd puissent amener les jeunes pour faire découvrir le groupe. Parce que des groupes comme Pink Floyd, il n'y en aura plus beaucoup.
Oui, je crains que ce soit le cas. Mais écoutez, je pense que le groupe ne pourrait qu'être d'accord avec ce souhait que cette exposition soit accessible et non pas trop coûteuse. Alors écoutez, je m'entretenais avec Guy Laforce, directeur général de l'Arsenal, qui présente une exposition, un rêve qui se réalise enfin, un rêve de longue date qui se réalise enfin. Félicitations. Merci beaucoup pour cet entretien des plus agréables et instructifs.
Merci beaucoup, Chantal.
Bon succès avec cette exposition.
Merci. Au plaisir.